Autorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Santé au masculin aujourd'hui dans Priorité Santé, puisque nous parlons de la prostate, cette glande de l'appareil génital qui joue un rôle essentiel à la fois pour la sexualité et la reproduction. Elle sécrète le liquide qui compose le sperme et certains de ses troubles altèrent la fonction érectile. Dans beaucoup d'esprits, la prostate reste associée au cancer, ce qui s'explique par la fréquence de cette maladie, puisqu'il s'agit du cancer masculin le plus fréquent. Mais le changement de volume, les troubles urinaires associés peuvent être liés à d'autres maladies comme l'adénome ou la prostatite. Cette association entre cancer et prostate peut certainement d'ailleurs expliquer le tabou, hein, une forme de tabou qui pèse sur cet organe. Peur donc de cette maladie, pudeur liée à sa localisation et gêne aussi associée au geste, hein, le toucher rectal qui permet aux médecins d'examiner les patients. Cancer le plus fréquent mais pas le plus mortel. Dans la grande majorité des cas, il concerne les hommes âgés de plus de 65 ans. Aujourd'hui, on va donc parler de la prévention, de la prise en charge. On va décrire les symptômes, parler du dépistage, expliquer pourquoi il est important de consulter, surtout de dépasser le tabou, car les traitements et les solutions existent. Et nous allons surtout répondre à vos questions posées, notamment sur la page Facebook de l'émission. Santé au masculin pour éclairer, conseiller, aiguiller nos auditeurs en ligne avec nous. Professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris, professeur d'urologie à l'université Paris 7 et vous êtes également l'auteur, professeur Desgrandchamps, de La prostate, on en parle, publié aux éditions Hachette Bien-être. En fin d'émission, on va revenir sur la campagne initiée par l'établissement français du sang, hashtag prenez le relais, don du sang indispensable alors que les réserves sont en dessous du seuil d'alerte. Après la crise sanitaire du Covid-19 et avant l'été, on va donner tout à l'heure la parole à François Charpentier, porte-parole de l'établissement français du sang.
Priorité santé sur RFI.
Et on ne perd pas de temps, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec un message que nous a laissé un auditeur du Mali, Paul-Henri de Bamako, professeur Desgrandchamps. Ce sera donc cette toute première question pour l'émission. Des auditeurs nombreux à poser cette question, c'est véritablement un sujet qui préoccupe nos auditeurs. L'interrogation c'est la suivante, est-ce qu'il est possible d'avoir un trouble de la prostate quand on est jeune ?
Oui, alors trouble de la prostate, faut s'entendre. Vous avez cité dans les trois maladies de la prostate, la prostatite, l'infection. Et donc l'infection de la prostate, c'est plus facilement une maladie de la prostate qui survient jeune parce que c'est pas mal lié à l'activité sexuelle. C'est un peu comme une cystite de la femme. Donc oui, la prostatite peut arriver chez les sujets plus jeunes. Pour les deux autres maladies, qui sont les plus fréquentes, l'augmentation de la taille de la prostate et la survenue de cancer, c'est rare chez les sujets jeunes, réellement. L'âge médian, vous l'avez cité, c'est autour de 62-65 ans pour les deux maladies. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 50 ans, en principe, il n'y a pas grand-chose. C'est à partir de 50 ans que les anomalies peuvent arriver. Alors 50 ans, c'est encore jeune. Peut-être que c'était ça la question qui était dans la tête de l'auditeur, mais c'est pas très jeune.
Et justement, s'arrêter sur ce singulier qu'il a employé, Paul-Henri, un trouble de la prostate. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes, justement, on a cité ces différentes maladies qui concernent cette glande masculine, est-ce que les hommes connaissent les différentes atteintes ou ils se concentrent encore, on va dire, sur le cancer ?
Oui, je crois que le malentendu peut venir de là dans la question. Un trouble de la prostate, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est dans la population générale, c'est pas le métier des gens de savoir ce qu'est la prostate ni ses maladies, et donc dès qu'on a une anomalie quand on urine ou des difficultés sexuelles, on dit puisqu'on est un garçon, c'est la prostate. Alors que étant jeune, on peut avoir des difficultés pour uriner qui sont dues à un rétrécissement du canal à l'intérieur de la verge, du canal de l'urètre, c'est pas la prostate. Pourtant, on a l'impression que c'est comme on urine comme une vieille personne, colonne avec un jet très fin. Et ce n'est pas la prostate, c'est une séance de l'urètre. On peut avoir des difficultés d'érection, d'origine, l'immense majorité est psychosomatique, hein, parce que c'est l'angoisse de performance et autres. Et pour autant, ce n'est pas la prostate qui est en jeu. Donc, il faut, sous l'intermédiaire, les patients peuvent venir en consultation et me voir aussi. Je leur demande pourquoi ils viennent, ils me disent, ben voilà, je viens parce que j'ai la prostate. Mais ce n'est pas la prostate, c'est des signes urinaires ou des signes sexuels qui peuvent parfois être liés à des maladies de prostate, mais peuvent être liés à autre chose. Donc, c'est peut-être là le malentendu de la question.
Et d'ailleurs, hein, beaucoup de nos auditeurs désignent directement le cancer de la prostate par le terme « j'ai la prostate ». Il y a une sorte de confusion ou d'association entre les deux.
Voire de fatalité, en disant « ça y est, ça me tombe dessus, j'ai la prostate ».
C'est peut-être aussi une expression aussi d'une certaine peur. Joseph Agarwa au Cameroun, lui par contre s'y connaît un petit peu et il vous demande, professeur Desgrandchamps, quelle est la différence entre l'adénome et l'hypertrophie de la prostate ?
C'est exactement la même chose.
C'est
deux, oui, ce sont deux synonymes. L'hypertrophie, c'est un terme visuel, physique, c'est gros. Et adénome, c'est en fait un terme anatomopathologique. C'est quand on regarde au microscope, on voit que c'est une augmentation du volume des glandes. Donc c'est c'est deux termes qui signifient la même chose. C'est qu'en fait, la prostate grossit. Mais c'est bénin.
Alors justement, il y a Mahamat qui est au chat qui nous a envoyé ce matin une question Facebook qui concerne son papa qui a 72 ans. Il nous explique « Mon père souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate, donc cet adénome de décrire depuis à peu près un an. Depuis deux semaines, sa situation s'est dégradée. Le 5 juin, il n'a pas plus uriné le matin. Il s'est présenté à l'hôpital. On lui a donc introduit une sonde. Pour l'instant, il la porte encore. Mahamat nous explique que son père est affaibli et il s'inquiète. Est-ce qu'il y a un risque s'il faut l'opérer ?
Alors, plusieurs points. Le risque de rétention, c'est effectivement une situation très difficile et dangereuse. Alors, heureusement, il était bien soigné. On a pu mettre une sonde vésicale. Maintenant, quoi faire ? Eh bien, il faut que son père puisse prendre des médicaments qui permettent d'augmenter les chances de retour des mictions naturelles. C'est-à-dire qu'en principe, une fois que la sonde est mise, quand on enlève la sonde, il y a une reprise des mictions dans presque 80% des cas. Le problème, c'est que le blocage peut recommencer quelques mois plus tard. Donc, pour réduire ce risque de reblocage, il faut prendre des médicaments. Les médicaments sont soit des extraits de plantes, il y a notamment le Pygium africanum qui est largement utilisé en Afrique, qui est un extrait d'écorce de prunier d'Afrique, et puis sinon des médicaments de chimie comme les alpha-bloquants. Donc, en fait, il faut prendre ces médicaments et enlever la sonde. Mais si ça ne marche pas, donc si le blocage survient de nouveau, il faut alors opérer, effectivement.
Alors, on a décrit les maladies, peut-être revenir à la base, professeur Desgrandchamps. Un homme, il va voir un médecin pour lui parler de sa prostate, dans quel cas, sur la base de quels signes, de quels symptômes, ou peut-être tout simplement à partir de quel âge ?
Alors, tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les patients peuvent venir à partir d'un certain âge en disant, moi, je viens parce que je suis parti à la retraite cette année, je voudrais faire un bilan de santé pour savoir où j'en suis. Donc ça, c'est le dépistage complet. Après, le patient peut venir adressé par son médecin traitant qui a fait un dosage de PSA, on en reparlera, pour savoir s'il y a un risque ou pas de cancer, et le malade vient pour ça. Et puis, enfin, c'est le patient qui vient parce qu'il a des difficultés urinaires et en particulier, il est gêné parce qu'il se lève la nuit, et c'est le signe le plus précoce, et donc il vient pour chercher un traitement. Donc soit les patients viennent pour chercher un diagnostic, c'est le PSA, j'ai un PSA un peu élevé, est-ce que c'est un risque de cancer ou pas, c'est ça l'inquiétude, ou ils viennent pour chercher un traitement parce qu'ils ont des symptômes urinaires qui les gênent, et il faut les résoudre.
Alors quand on fait ce dosage fameux PSA, on dose quoi précisément ?
On dose une substance qui est normalement sécrétée par la prostate et qui sert à la liquéfaction du sperme après l'éjaculation, ce qui permet en fait de désengluer les spermatozoïdes pour qu'ils puissent aller rejoindre l'ovule. Et donc, à l'état normal, tous les jours, il y a un petit peu de cette substance qui qui passe à travers la prostate et qui passe dans le sang. Et donc, c'est un petit peu, ça veut dire que c'est pas un taux fixe. C'est-à-dire que le PSA est naturellement fluctuant. Il y a des jours où il y en a un peu plus dans le sang, et des jours où il y en a un peu moins dans le sang, c'est normal. Et les variations, c'est plus ou moins 20%. Et donc, à partir du moment où on a un dosage de PSA qui paraît un peu élevé, la norme, c'est 4, si c'est un petit peu élevé, ou si c'est un petit peu élevé par rapport au dernier dosage de l'année dernière, ben, on se panique pas, on attend 3-4 semaines, on le redose, pour savoir si ça redescend tout seul. Si ça redescend tout seul, on est tranquille. C'est tellement fluctuant qu'il a été montré, une publication toute récente, il y a moins de 6 mois, que le taux de PSA l'après-midi est plus bas que le taux de PSA du matin. Parce que le matin, c'est là où il y a le pic de sécrétion de testostérone. La testostérone, c'est l'hormone mâle par excellence, et donc c'est vers 10 heures que les testicules sécrètent beaucoup de testostérone. Et la prostate, qui est un organe sexuel secondaire, dépend de la testostérone pour son activité. Et donc vers 10 heures le matin, la prostate est en pleine activité. Elle va sécréter beaucoup de PSA, et donc un petit peu de PSA en plus risque de passer dans le sang. Et donc vous avez un taux de PSA qui est plus élevé le matin que le soir. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le PSA n'est pas une valeur absolue. C'est pas une valeur biologique. Seuil, quand c'est au-dessus, c'est pas bon. Quand c'est en dessous, c'est bien. C'est une vecteur qui est fluctuante et qui dépend de beaucoup de paramètres. La prostate, quand elle grossit normalement avec l'âge, sécrète plus de PSA. Donc le PSA d'un homme qui a une grosse prostate bénigne va être plus élevé que le PSA d'un homme qui a une prostate de taille normale. Et malheureusement, ou heureusement, parce que c'est la meilleure façon de trouver le cancer, lorsqu'il y a un cancer de la prostate, le cancer en fait sécrète beaucoup de PSA, et donc il y a un peu plus de PSA qui passe dans le sang, et c'est comme ça qu'on les découvre avant qu'ils ne soient trop gros.
En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que si on sort du labo, on regarde le résultat, s'il est au-dessus de 4, il ne faut pas dire « attention, j'ai un cancer », ça ne veut pas du tout dire ça.
Non, du tout. Ça veut dire « attention, il faut que je vois quelqu'un qui sait de quoi il parle ». C'est-à-dire d'abord, il faudra refaire le dosage de PSA quelques semaines plus tard, il a peut-être baissé et puis tout va bien. Et un PSA au-dessus de 4, ça peut être lié simplement à la taille normale d'une prostate un peu grosse, parce que le patient est âgé, donc sa prostate a grossi, donc c'est normal. On dit que le PSA, ça peut atteindre 10% du volume de la prostate. C'est-à-dire qu'un homme qui a une prostate de 50 grammes, la normale à 20 ans, c'est 20 grammes, puis ça commence à grossir. Une prostate de 50 grammes explique un PSA à 5. Une prostate de 100 grammes, c'est pas du tout inhabituel, les grosses prostates, explique un PSA qui va jusqu'à 10. C'est un ordre d'idée. Donc déjà, si le PSA est un peu élevé, ça peut être simplement dû à la taille de la prostate, sans qu'il y ait de cancer. Et puis sinon, il peut y avoir de cancer. Dans ces cas-là, si le PSA reste élevé et que la prostate est anormalement normale en taille, si je puis dire, par exemple un PSA qui va être à 7 pour une prostate qui va être à 40 grammes, alors qu'on attend un PSA à 4, dans ces cas-là, il faut faire un bilan un peu plus spécialisé, le toucher rectal pour voir s'il y a une induration suspecte de cancer dans la prostate, un petit nodule, et puis maintenant c'est l'IRM qui permet de savoir où on en est, l'IRM de la prostate qui permet de savoir s'il y a un risque ou pas de début de cancer.
Alors avant d'entendre un témoignage, professeur Desgrandchamps, témoignage en direct tout de suite, message d'Ismaël qui nous écoute en Côte d'Ivoire.
Bonjour docteur Karoun et ses invités. Je me nomme Ismaël, plus précisément à Abidjan. Ma préoccupation est la suivante. J'ai 29 ans et le mois de décembre 2019, j'ai accompagné mon père pour aller subir une opération qui souffrait de la prostate. Et l'opération s'est bien passée par la grâce de Dieu. À cette époque-là, mon père avait 81 ans. Mais vu que j'étais à ses côtés et j'ai observé tout, j'ai suivi tout aussi, il souffrait avant l'opération même. À une semaine de l'opération, ou bien à un mois même de l'opération, il souffrait. Pour uriner même, il n'arrivait pas. Souvent aussi, s'il arrive à uriner, c'est le sang qui sortait. Donc je me demande, comment faire pour éviter cette maladie? J'ai peur de cette maladie. Donc j'aimerais avoir des conseils pour mieux connaître la maladie et éviter aussi la maladie.
Ismaël, 29 ans, qui a besoin d'être rassuré, professeur François Desgrandchamps, et qui nous permet, parce que c'est très important, de parler de la prévention. Quels conseils, quelles suggestions pour conserver cette prostate, eh bien, en bonne santé?
Alors déjà, pour répondre au cas très particulier de Ismaël, son père a été opéré à l'âge de 81 ans. Et donc, ça ne lui donne pas de risque familial particulier. C'est-à-dire que les maladies familiales prostatiques, où il y a un risque de transmission par des gènes de susceptibilité ou des gènes un peu fragiles, si vous voulez, qui donnent un risque de cancer, c'est des cancers qui surviennent avant l'âge de 50 ans. Vous avez ici un homme de 81 ans qui a une grosse prostate, vraisemblablement, parce qu'il a du mal pour uriner, et donc ça bloque pour la sortie. Il y a du sang, et donc le sang, ça peut être simplement un adénome. Quand la prostate est très grosse, il y a des grosses veines sur la prostate et les gens saignent comme ils saignent du nez, et donc ça peut être simplement ça, ou ça peut être aussi un cancer de la prostate. À cet âge, c'est aussi très fréquent, qui peut donner les mêmes tableaux. Mais dans les deux cas, en fait, le fait que cet homme ait 81 ans ne donne pas de risque particulier pour sa descendance. Alors après, comment, de façon très générale, donc pour Ismaël, éviter d'avoir un problème de prostate? Ben, on le dit, on le répète, c'est d'abord être vigilant sur l'état de sa prostate, c'est-à-dire autour de 50 ans, faire un dosage de PSA pour être certain qu'on n'est pas à risque de cancer. Le PSA autour de 50 ans, quand il est inférieur à 1 nanogramme par ml, la normale c'est 4, hein, donc quand le PSA est très bas, à 1 à 50 ans, il n'y a aucun risque de cancer dans les 20 ou 30 années qui suivent. C'est deux publications scandinaves qu'il avait montrées il y a longtemps, donc a priori il n'y a pas de risque. Alors s'il est au-dessus de 1, ça ne veut pas dire qu'on aura un cancer, mais ça veut dire qu'il faudra de temps en temps faire un bilan par prise de sang pour redoser le PSA. Donc 1 autour de 50 ans, doser le PSA, savoir où on en est. Deux, être attentif à ses symptômes. Et donc, si on commence à se lever la nuit, ne pas le négliger, mais aller voir le médecin pour en parler et faire un bilan.
Et tout à l'heure, on parlera des conseils d'hygiène de vie quotidienne, justement, pour garder une prostate en bonne santé. Mais tout de suite, un témoignage dans notre émission.
Priorité santé sur RFI.
Alors ce témoignage, c'est le vôtre. Jean-Luc, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, bonjour, vous avez 56 ans aujourd'hui. Oui. À quel âge ce cancer de la prostate a-t-il été diagnostiqué? On va le comprendre en vous écoutant. Il y a eu de multiples étapes. Mais déjà, qu'est-ce qui vous alerte dans un premier temps?
Alors ce qui m'alerte, alors j'ai 44 ans. Et ce qui m'alerte dans un premier temps, c'est que depuis, on va dire, 6 mois, 1 an, je me lève très fréquemment la nuit pour aller uriner. Et c'est dans les derniers temps, donc à 44 ans, à peu près 7 fois par nuit. Donc j'ai des nuits vraiment assurées.
Alors le premier médecin que vous consultez suite justement à ces premiers signes, à ces symptômes, qu'est-ce qu'il vous dit?
On s'oriente vers une prostatite dans un premier temps. Et il me dit que j'évoque, moi, le cancer, parce que je suis pragmatique. Et il me dit, à votre âge, c'est pas possible.
Il balaye du revers de la main. Et à ce moment-là, il vous fait passer malgré tout des examens?
Alors, non, pas l'urologue me prescrit pas d'examen. C'est mon médecin traitant qui me prescrit une échographie. Et par une relation, moi, je me fais prescrire une IRM. Et l'IRM, effectivement, montre une zone en hypersignal.
Et à ce moment-là, vous avez des examens complémentaires ou de nouveaux symptômes qui apparaissent?
Alors, les symptômes restent toujours les mêmes. Des nuits très, très difficiles où je dors très mal et j'urine très fréquemment la journée, la nuit. Et mon PSA continue, je continue à faire des tests de PSA, mon PSA continue à monter. Alors oui, la chose qui m'alarme aussi, c'est que mon PSA est à 6,50 et que ma prostate apparemment à l'échographie est de taille normale, donc c'est-à-dire 20 grammes.
Ok.
Professeur Desgrandchamps, justement, cet examen PSA à 6,50, un jeune âge, hein, on l'a entendu, moins de 50 ans, ça veut dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir des doutes sur l'origine, justement, de ces symptômes, cet besoin d'aller uriner plusieurs fois la nuit.
C'est qu'à 44 ans, un tableau comme le vôtre, monsieur, c'est des envies fréquentes d'uriner, le jour, la nuit, un PSA un peu élevé, une prostate normale. Je ne sais pas si le médecin vous a examiné, si vous touchez avec
la prostate. Oui, il m'a examiné, prostate normale.
Voilà, prostate normale. On se dit, c'est une inflammation de la prostate. Mm-hmm. Et donc, le premier mouvement, effectivement, c'est de dire, attendez, on va voir ce qui se passe. Dans ces cas-là, il faut redoser le PSA quelques temps plus tard. Et si le PSA ne descend pas ou s'il continue de monter, et si l'analyse d'urine est stérile, parce qu'une prostatite, en fait, ça donne soit des germes dans les urines, soit au moins des globules blancs dans les urines. Et donc, s'il y a une discordance, on peut pas faire rentrer de force le malade dans un cadre. Dans ces cas-là, il faut se dire, même si c'est exceptionnel, il faut pousser les exploration, et ce que vous avez fait, c'est absolument ce qu'il fallait faire, c'est l'IRM, de façon à savoir s'il y a un risque ou pas de cancer. Mais c'est vrai qu'en première intention, au premier contact, 44 ans, miction très fréquente, et un PSA un peu élevé, touche rectale normale, on se dit, c'est une inflammation. Ok, ça c'est valable pour la première consultation. Mais on se revoit avec des examens, et si ça ne le confirme pas, c'est-à-dire le PSA doit descendre, l'analyse d'urine doit montrer une anomalie, si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, on remet tout en jeu et on refait l'IRM, absolument.
Jean-Luc, ensuite, il y aura une biopsie, c'est bien cela, comme examen complémentaire?
Pas par le même urologue, parce que lui a refusé, compte tenu que ce n'est pas lui qui m'avait prescrit l'IRM, il me dit textuellement, moi je ne travaille pas comme ça. Donc, il n'a pas regardé mon IRM. Donc, j'ai changé d'urologue. Je suis allé voir sur les conseils de mon kiné. Je suis allé voir un professeur à l'hôpital Tenon à Paris, qui m'a, lui, effectivement, entre guillemets, sauté sur l'IRM, a regardé l'IRM et m'a dit « Je veux vous ausculter et je veux faire une biopsie, quelques prélèvements à l'endroit précis où il y avait une zone en hypersignal. Effectivement, biopsie positive, Gleason 9.
Oui, sur des formes de cancer de la prostate très agressives qui en fait peuvent survenir très jeunes. C'est des formes très rares de cancer de la prostate.
Oui, d'accord. C'est ce qu'on m'a dit.
On va dire assez atypique par rapport à la plupart des cancers que vous prenez en charge, professeur Desgranchons.
Oui, bien sûr. L'immense majorité des patients ont plutôt 62-65 ans et c'est des glycones. Alors, il faut que tout le monde entende ça, c'est que glycone, GLEASON, c'est un nom propre. C'est le nom d'un médecin dans les années 50 qui a classé les différents aspects de cancer du plus dangereux au moins dangereux. Le moins dangereux, c'est un cancer qui va ressembler à la prostate normale. Bon. Le plus dangereux, c'est un cancer de la prostate qui sera très différent, très difforme. Toutes les cellules seront différentes de cellules de prostate normale. Et donc, le score allait avant de 1 à 10, mais de 1 à 10, mais les premiers scores, finalement, sont considérés comme de la prostate normale, et maintenant c'est de 6 à 10. Et donc un Gleason 6, ce sont des cancers très fréquents, c'est la moitié des cancers, n'ont pas besoin d'être traités globalement. Ce sont des cancers qui ressemblent à la prostate normale, qui ne sont pas dangereux. Et au contraire, plus on monte, 6, 7, 8, là vous avez 9 ou 10, ce sont des cancers de plus en plus dangereux, pour lesquels les traitements sont donc de plus en plus agressifs pour arriver à contrôler la maladie. Voilà ce qu'est le score de Gleason, c'est fondamental. On peut pas dire, quelqu'un peut pas dire, j'ai un cancer à la prostate, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça suffit pas. Il faut savoir si c'est un cancer agressif ou pas. Donc est-ce que c'est un score 6, auquel cas on peut attendre, voir, surveiller. Dans l'immense majorité des cas, il se passe rien, c'est pas la peine de traiter du tout, ce qui est quand même assez particulier pour un cancer. Et au contraire, 7, 8, 9, 10, il faut bien sûr traiter.
Donc c'est Jean-Luc, dans cet hôpital parisien, que le diagnostic est posé. Comment est-ce que vous l'accueillez? Comment vous réagissez?
J'ai un peu un immeuble qui me tombe sur la tête. Je suis papa solo avec 5 enfants, dont encore tous en bas âge. Je suis profession indépendante, donc c'est compliqué, mais je fais face. J'annonce à mes enfants que je vais être opéré, puisque je fais le choix de l'opération. Je suis opéré en quelques mois après. Malheureusement, mon taux de PSA ne descend pas suffisamment après le premier contrôle, après l'opération, 2 mois après. Donc là, je rentre dans une phase qu'on appelle de rattrapage. Donc hormonothérapie et radiothérapie. J'ai eu de la radiothérapie pendant 3 mois. Et je suis resté sous hormonothérapie pendant 6 ans.
Aujourd'hui, vous pouvez décrire.
Aujourd'hui, j'ai un PSA indétectable, mais je gère au quotidien les séquelles des traitements que j'ai eus et que j'ai tout à fait accepté, bien évidemment, pour rester vivant.
Oui, alors ça, c'est un thème accepté qui est très, très important à souligner. C'est qu'en fait, le grand problème, si vous voulez, de la prise en charge des hommes comme vous qui avez un cancer de la prostate débutant, localisé, c'est qu'il n'y a aucun symptôme. Et donc, quand vous dites, Caroline, est-ce que vous l'avez bien pris ou pas, on ne peut pas bien le prendre parce que...
ce genre d'annonce, c'est rarement bien pris.
On ne peut pas bien le prendre parce que, comme on n'a pas de symptômes, en fait, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que si vous imaginez quelqu'un qui a un cancer du poumon, qui crache du sang, eh bien, il va être content d'être soigné. Un homme qui a un cancer de la prostate, c'est tout à fait artificiel.
Il on ne va pas le soulager.
Il se renseigne, mais il se plaint de rien. Alors que, vous l'avez dit, Jean-Luc, c'est que pour bien guérir, il faut accepter d'être malade. Et donc, il y a toute une étape de psycho-oncologie qu'il ne faut pas négliger. Donc, j'espère que vous avez pu être vu par un psycho-oncologue, parce que c'est fondamental. Parce que pour un homme, l'annonce d'un cancer de la prostate, c'est une sorte de double peine. D'abord, j'ai un cancer, et donc, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie? Maintenant, mes projets, c'est foutu, je vais mourir. Le cancer fait peur. Après, c'est la prostate. Donc, c'est fini, je ne serai plus jamais un homme, ma virilité est en jeu, etc. Et donc, quand un homme a une annonce comme ça de cancer de la prostate, et qu'on le laisse seul, c'est une catastrophe. Alors, parfois, il fait peser sur son entourage. Là, vous avez parlé à vos enfants. Il faut faire attention de ne pas trop parler à l'entourage avant soi-même d'avoir accepté le diagnostic et d'avoir adhéré à un projet thérapeutique, parce que sinon on bascule son angoisse sur l'entourage. Et dès qu'on est prêt, à ce moment-là, oui, effectivement, il faut en parler à l'entourage pour être soutenu. Mais donc il y a toute une étape lors de l'annonce du cancer qui n'est pas souvent très bien faite, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens dans les hôpitaux, notamment de ressources en psycho-oncologie, pour que les hommes puissent parler. Les femmes, entre elles, elles parlent dans le cancer du sein, et les hommes, ils ne parlent pas, ils sont droits dans leurs bottes, et souvent, ils s'écroulent. Donc c'est très bien que vous ayez été pris en charge, parce que c'est une chose difficile, hein, à la fois le cancer qui fait peur, et la virilité aussi qui fait peur.
Ce que je peux rajouter en tant que soutien, c'est très important, et ça a été tout le long, et c'est encore maintenant, c'est la présence des associations de patients et tout particulièrement, pour ma part, l'ANAMACAP.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que très souvent, hein, les témoins, les auditeurs qui nous appellent mettent en avant l'action de ces associations, en plus, bien évidemment, du soutien psychologique qui est absolument essentiel.
Je suis d'accord, mais une discussion, face-face avec un psycho-oncologue fait sortir beaucoup de choses quand même, parce qu'on parle plus facilement à quelqu'un qui, en plus, connaît les ficelles, et c'est pas des trucs, hein, mais c'est pour aider les mots à sortir. Une fois que c'est sorti, c'est bon, hein, c'est pas une psychanalyse, on va pas chercher très loin, mais il y a des mots à sortir. Il y a des angoisses qui sont rentrées, et c'est pour ça que la psycho-oncologue est importante, que la consultation d'annonce, qui est maintenant légale, hein, dans les centres qui soignent des patients qui ont des cancers, avec une infirmière est fondamentale, parce qu'il faut trouver des mots qui permettent aux autres mots de sortir pour que le patient soit soulagé, admette les choses et soit presque serein au moment d'être traité, qu'ils comprennent pourquoi. Après, les séquelles dont vous souffrez, beaucoup sont rattrapables. Vous êtes suivi par un bon centre, donc on a dû pouvoir vous en parler, mais il y a quand même beaucoup de séquelles qui sont rattrapables. On parle des séquelles urinaires, des fuites d'urine, des séquelles sexuelles, des séquelles des rayons sur les rectums. Il y a beaucoup de soins possibles, hein, pour améliorer la situation, mais malgré tout, il y a un risque de séquelles, des traitements, raison pour laquelle, enfin, c'est pas votre cas malheureusement, mais pour laquelle il faut faire attention au surtraitement et ne pas traiter des patients qui n'en ont pas strictement besoin. On en parlait tout à l'heure, des fameux patients qui ont des scores 6, ceux-là, avant de traiter, il faut vraiment réfléchir pour savoir s'ils en ont besoin. Pour les autres patients, le risque est vraiment vital, donc on peut admettre un risque de séquelles, c'est tolérable si c'est pour rester vivant, je suis d'accord avec vous, mais ces séquelles peuvent être limitées, soit dans la réalisation des traitements, soit après, dans la réparation des séquelles. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de moyens pour améliorer la situation.
Merci beaucoup en tout cas, hein, Jean-Luc, pour ce témoignage. Merci à Raphaël Constant qui nous a aidé à préparer cet entretien. Avant de prendre un autre auditeur, un message pour justement d'autres questions, juste une petite question, professeur François Desgrandchamps. Radiothérapie, hormonothérapie dans le cas de Jean-Luc, plusieurs possibilités de traitement. Qu'est-ce qui va déterminer le choix d'une thérapeutique par rapport à l'autre ?
Alors, deux choses. La première, c'est donc déjà on se place dans un cadre où le cancer doit vraiment être traité, hein, donc pas pas les scores 6, mais les autres, et puis dans le cadre où la tumeur est complètement localisée à la prostate quand c'est pris tôt, et grâce au dépistage par le PSA. Voilà. Donc quand le cancer est pris tôt, qu'il reste bien dans la prostate, il y a deux façons de traiter. Soit l'ablation de la prostate, soit l'irradiation de la prostate, à laquelle on associe un traitement hormonal plus ou moins long. Là, dans le cas de Jean-Luc, c'était très long, 6 ans. D'habitude, c'est entre 6 mois et 3 ans pour les formes les plus habituelles. Le cancer de ce patient était assez inhabituel. Et donc c'est soit ablation de la prostate, soit rayon, plus ou moins une séquence d'hormonothérapie. Comment on choisit ? Eh bien, on choisit en fonction de qui est le patient. C'est-à-dire que le risque de séquelles qui peuvent survenir, que ce soit des séquelles urinaires, des fuites d'urine ou séquelles sexuelles avec des érections de moins bonne qualité, voire leur disparition, dépend beaucoup de l'âge. En principe, plus les gens sont jeunes, moins il y a de séquelles. Et donc, plus les gens vont être jeunes, plus on se dira ben, il vaut mieux les opérer parce que c'est un traitement bien sûr aussi efficace que les rayons, mais qui permet en cas de rechute, puisqu'il y a à peu près 20% de rechute dans les traitements de première intention, en cas de rechute, on peut compléter par des rayons derrière. Au contraire, si les patients sont plus âgés, là, ils ont plus de grands risques de séquelles. Dans ces cas-là, il faut mieux faire un traitement qui associe des rayons et des hormones. Donc, ça dépend de qui est le patient. Puis, ça dépend également de l'extension locale du cancer. C'est-à-dire que si le cancer reste dans la prostate, mais commence à s'étendre au bord de la prostate, dans ces cas-là, il vaut mieux faire des rayons et des hormones parce que le chirurgien, en enlevant la prostate, risque de laisser de la tumeur. C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs pour le patient précédent, puisqu'il a fallu l'irradier après. La tumeur n'était pas complètement enlevée. Et donc, globalement, choisir entre les deux techniques sont d'efficacité similaire, de risque de séquelles proches, le risque d'incontinence est un peu plus fort pour les rayons que pour la chirurgie que pour les rayons, le risque de perte d'érection est un peu plus fort pour les rayons que l'opération, les rayons donnent des problèmes digestifs par irradiation du rectum que ne donnent pas les opérations, donc globalement le risque de séquelles se rapproche entre les deux, donc le choix se fait sur qui est le malade, plutôt jeune en bonne santé, plutôt opération, et qui est la tumeur, plutôt grosse et plutôt rayon.
Alors après cette séquence, entre guillemets, sur le cancer, d'autres maladies de la prostate avec des questions d'auditeurs qui concernent notamment les inflammations, les infections. On commence avec Moustapha au Sénégal.
Bonjour Caroline, bonjour les auditeurs de Priorité Santé, c'est Moustapha à Tambacounda au sud du Sénégal. J'ai des questions. La première question, c'est est-ce que les infections sexuellement transmissibles peuvent favoriser la survenue d'une prostatite. L'autre question, c'est la précocité des rapports sexuels. Peuvent-ils favoriser, chez les adolescents, une nette augmentation du risque d'un cancer de la prostate? Merci aux invités.
Alors, professeur François Desgranchon, le lien entre... entre les infections, les maladies de la prostate, avec la question de l'âge, qu'on a d'ailleurs retrouvé justement chez plusieurs auditeurs,
sur la précocité,
un lien
des
supposé. Absolument, absolument. Okay. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Pour ces deux points, le premier, relation entre les maladies sexuellement transmissibles et les prostatites, oui, il y a un lien. Puisque la prostatite, c'est les germes qui remontent le long du canal de l'urètre, un peu comme les cystites, et l'activité sexuelle augmente le risque de remontée des germes. Donc oui, il y a un lien entre infection sexuellement transmise et prostatite. Il y a même une discussion sur le lien possible entre les infections sexuellement transmises et le risque de cancer de la prostate. Alors ce sont des données épidémiologiques, il n'y a pas de preuves, mais il y a un doute sur une possible, un facteur favorisant, parce que les infections provoquent une inflammation de la prostate, et cette inflammation plus ou moins chronique augmente les anomalies cellulaires et peut aboutir à un risque de cancer. C'est un doute. Après, sur la précocité des rapports sexuels et les maladies de prostate, il n'y a pas de données sur l'âge des premiers rapports sexuels et le risque de problèmes prostatiques après. Et pour répondre plus précisément, il faut des rapports sexuels protégés, sauf si, bien sûr, on connaît très bien la partenaire et qu'il n'y a pas de risque, parce que là, on retombe dans le risque d'infection et de prostatite et après de cancer. Donc, rapports sexuels protégés, c'est certain. Précoces ou pas précoces, ils doivent être protégés. Après, il y a toute une littérature scientifique qui va dans le sens plutôt d'une certaine protection vis-à-vis du cancer de la prostate en fonction du nombre de rapports sexuels par mois. C'est-à-dire que plus il y a d'éjaculation par mois, moins, semble-t-il, il risque d'y avoir de cancer, et ça va jusqu'à diviser par deux le risque de cancer. Il y a une justification biologique là-dessous, c'est que dans le sperme, qui est le liquide qui est sécrétée par la prostate, hein, le sperme est fait par la prostate et les vésicules séminales, il y a deux substances qui peuvent être un peu irritantes pour les cellules, et donc si le sperme stagne dans la prostate, les cellules sont au contact de ces substances irritantes et peuvent se transformer en cellules malignes. C'est une hypothèse, hein. Mais globalement, sur des grandes cohortes, notamment nord-américaines, on voit que si les gens déclarent avoir plus de 20 rapports sexuels par mois, enfin plus de 20 éjaculations, c'est qu'on peut se débrouiller aussi tout seul, mais plus 20 éjaculations par mois, il y a deux fois moins de risque de cancer, et ça, quelle que soit la tranche d'âge, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est-à-dire que si vous avez un rythme d'éjaculation faible et que vous vous mettez à avoir plus d'éjaculation, ben vous allez vous protéger d'autant dans les années qui viennent du risque de cancer de la prostate. Donc pour répondre aux deux questions, IST, infection sexuellement transmise et prostatite, la réponse c'est oui, oui, oui. Précocité et problème prostatique, on peut avoir un rapport sexuel très jeune, puis après plus en avoir du tout, donc il n'y a pas de relation, il y a un rapport entre le nombre d'éjaculations et le risque de cancer, mais le maître mot de tout ça, c'est rapport sexuel protégé, sauf si bien sûr le partenaire est bien connu.
Alors, sexualité et santé de la prostate, question qui préoccupe nos auditeurs, professeur Desgrandchamps. Autre question, cette fois, c'est Élie qui est en République démocratique du Congo.
Bonjour Caroline. Ici au Congo, on dit souvent que si une personne a connu beaucoup de femmes quand il était jeune, ou soit s'il s'est masturbé de temps en temps, en un certain moment, quand il aura la cinquantaine, il aura la prostate. Alors, je voudrais savoir si c'est vrai et que faire pour anticiper cette maladie.
Alors, sur la première partie, on a déjà répondu, sur la jeunesse, mais la deuxième. Ce fameux « on dit » comme l'exprime Élie.
Oui.
La masturbation censée favoriser, alors je dis bien censée, hein, le cancer de la prostate. Et puis, j'aime bien la façon dont il le dit. On dit que, bon déjà, ça veut dire que c'est sur la base de rumeurs.
Alors, c'est des rumeurs qui sont infondées pour le coup, hein, parce que au contraire, donc plus il y a d'éjaculation, donc masturbation inclus, moins il y a de cancer. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup de masturbation régulière que le risque de cancer, on ne périt pas par où on a péché, hein, puisque c'est quand même un petit peu ça la rumeur, c'est-à-dire en fait, c'est un peu moraliste, c'est-à-dire que prostate est liée à la sexualité, et ben, si vous en avez beaucoup, si vous avez beaucoup utilisé, ben, vous serez condamné par où vous avez péché. Donc non, au contraire. Alors, le nombre de partenaires, lui a été évoqué comme risque de cancer, mais c'est par la transmission, par le biais, pardon, des infections sexuellement transmises. C'était une étude cubaine qui avait dit, ben voilà, si on a de nombreux partenaires, on a un peu plus de risque de cancer, mais c'est plutôt par le risque d'infection que par le nombre de partenaires réellement. Donc oui, c'est une rumeur qui n'est pas fondée, qui est une rumeur un peu moraliste en fait, hein, sur le fond, et qui n'est pas fondée du tout.
Et qui revient souvent hein, dans les questions des auditeurs, parce que même quand on fait les émissions avec le docteur Solano sur la sexualité, beaucoup de questions sur la masturbation. Est-ce que je peux attraper une maladie en me masturbant? C'est très souvent une question récurrente. Autre question cette fois sur la prise en charge. Question de patient auditeur du Cap en Afrique du Sud. Il nous l'a posée bien sûr sur le répondeur de Priorité Santé. Question là qui concerne son père, son papa.
Bonjour Caroline, bonjour l'invité, bonjour les auditeurs de la radio RFI. C'est Patient Oumba Kantanga, je vous appelle à partir de Cape Town en Afrique du Sud. En fait, le père de mon ami de 76 ans a une inflammation pathologique de la prostate depuis 6 ans. Il a souvent des douleurs qui ne s'arrêtent que lorsqu'il prend un calmant. Faute de moyens, il ne fait que prendre des calmants. Quel serait le traitement pour lui et le moins cher?
Alors, quand on souffre de la prostate et qu'on prend des médicaments, professeur Desgrandchamps, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, les douleurs de la prostate, ce sont des douleurs qui sont entre les bourses et l'anus et qui irradient le long de la verge. Parfois, ça peut même se limiter à une douleur du gland. Donc on peut prendre les gens pour des gens un peu psychosomatiques, mais donc la prostate, ça peut faire mal, sauf que comme il n'y a pas de nerfs dans la prostate, le cerveau donne des informations dans la région. Il indique au patient qu'il y a un truc qui ne va pas dans la région, donc entre les bourses et l'anus ou dans la verge, mais pas la prostate précisément, parce que le cerveau ne sait pas où elle est. Et donc, quand il y a une douleur de prostate, le premier réflexe, c'est l'infection. Et donc, pour cet homme de 56 ans qui a des douleurs répétées de la prostate, les calmants peuvent être utiles, mais c'est surtout les antibiotiques qui peuvent fonctionner. Comment savoir s'il y a une infection prostatique? C'est d'abord une analyse d'urine standard. On demande au patient d'uriner et les premières gouttes d'urine sont analysées au laboratoire. Mais ça peut être négatif et pourtant la prostate peut être infectée quand même. C'est ce qu'on appelle la prostatite chronique. Et donc, pour pouvoir savoir s'il y a un germe, il faut faire sortir les sécrétions de la prostate pour les analyser. Et donc ça, c'est une analyse d'urine que l'on fait après un toucher rectal. C'est-à-dire que le laborantin va faire le toucher rectal de cet homme de 56 ans, va écraser sa prostate, on sent très bien la prostate au toucher rectal qui est située à 4 cm au-dessus de l'anus, en avant. Donc on écrase la prostate et puis on demande au patient d'uriner. Le fait d'avoir écrasé la prostate fait que les sécrétions de la prostate sont sorties de la prostate et comme la prostate est sous la vessie, les premières gouttes, c'est pas de l'urine, c'est les sécrétions de la prostate et on les emmène comme ça au laboratoire et on voit s'il y a des globules blancs ou pas. S'il y a des globules blancs anormaux, c'est une prostatite et on regarde s'il y a des germes ou pas. S'il y a des globules blancs et des germes, c'est une prostatite chronique bactérienne et ça soigne par antibiotiques. Ça, c'est facile. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on trouve des globules blancs et qu'il n'y a pas de germes. Et donc, on a une prostatite chronique, pas de germes, et donc on peut tester un antibiotique au hasard, empiriquement, mais si ça ne marche pas, c'est alors anti-inflammatoire, antalgique, comme c'est le cas ici, et différents autres médicaments, éventuellement même de traitements un peu alternatifs, comme la gelée royale ou d'autres plantes qui peuvent diminuer l'inflammation de la prostate. Voilà, donc la réponse pour ce dossier, c'est avant tout une analyse d'urine et éventuellement une analyse des sécrétions prostatiques après massage de la prostate pour chercher un germe responsable et le traiter. Quand on traite un patient qui a une infection de la prostate, c'est pas comme une cystite chez la femme, c'est pas 4 jours, 5 jours d'antibiotiques, c'est 3 semaines, parce que les antibiotiques pénètrent très mal dans la prostate et donc c'est un traitement long. Sinon, on risque justement de déclencher une prostatite chronique par un traitement insuffisant. Donc c'est 3 semaines de traitement antibiotique si on trouve le germe.
Donc la première réponse c'est aller refaire des examens. Ça, c'est
analyse d'urine, c'est fondamental. Si l'analyse d'urine standard est normale, il faut faire une analyse des sécrétions prostatiques, donc une analyse après massage de la prostate.
Alors pour revenir, tout à l'heure on parlait du cancer de la prostate en première partie d'émission. On a entendu un témoignage, des questions justement sur le dépistage. Est-ce qu'il y a encore une forme de polémique entre ceux qui estiment qu'on dépiste trop et ceux qui considèrent qu'on ne dépiste pas assez?
Oui. Même si officiellement elle n'est plus là, le dépistage a montré qu'on réduisait la mortalité par cancer de la prostate. Donc oui, il faut dépister. Mais en même temps, le dépistage a montré qu'on conduisait à un surtraitement. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on dépiste, on va trouver le cancer de la prostate. Mais le cancer, il a 2 formes différentes. Les cancers pas dangereux, les fameux SCORCIS, et les autres. Le problème, c'est que quand le malade est dans cette sorte d'engrenage de dépistage du cancer, eh ben, il y a malheureusement encore trop d'hommes qui sont soignés d'un cancer de la prostate, de SCORCIS, alors qu'ils auraient très bien pu ne pas l'être. Donc la controverse s'est un petit peu déplacée. Pour ou contre le dépistage, c'est pas la bonne question, c'est plutôt pour ou contre le surtraitement. Et donc oui, il faut dépister tout le monde, bien sûr que oui, 50 ans, le PSA, et après, si jamais le PSA n'est pas assez bas, régulièrement. Oui, il faut dépister, mais non, il ne faut pas traiter tout le monde, c'est peut-être plutôt une évidence, mais ce n'est pas toujours appliqué, il ne faut traiter que les hommes qui en ont besoin.
Et au niveau de l'anxiété, comment on le gère? Parce que quand même s'il y a ce chiffre qui est relativement bas, même s'il y a tous ces autres paramètres qui entrent en ligne de compte, quand on fait face à un patient angoissé qui dit « j'ai un cancer en moi, je ne peux pas le supporter », comment on fait?
Ah, pour la surveillance, c'est un faux problème.
Absolument.
Alors ça, quand on a un diagnostic de cancer et qu'on ne traite pas le cancer, qu'on le surveille en fait, le risque d'évolution étant très faible et il est toujours temps de traiter s'il fallait, la fameuse épée de Damoclès n'existe pas. C'est-à-dire que certains de mes collègues disent, je comprends, on ne peut pas laisser les malades avec un diagnostic, ils ont l'impression qu'ils sont abandonnés, ce n'est pas vrai. Il y a une étude de psychologique qui a été faite en Hollande il y a déjà pas mal d'années, qui montre qu'en fait, les hommes qui ne sont pas faits pour la surveillance active sont des hommes qui sont névrosés, sont des hommes qui ne sont pas faits pour être malades. C'est-à-dire que ces mêmes hommes, si vous les opérez, ils seront inquiets pour le suivi et avoir les dosages de PSA après, est-ce qu'ils ont récidivé ou pas. Donc en fait, tout se passe beaucoup en amont. Déjà, c'est avant de faire les prélèvements, avant de faire l'IRM, qu'il faut expliquer aux hommes qu'il y a 2 formes de cancer. S'il y a une forme qui est bénigne, on ne traitera pas. Donc c'est avant qu'il faut bien sûr informer les hommes. Et après, en fait, si le patient ne tolère pas la surveillance, c'est vraiment exceptionnel. Dans mon expérience, je n'ai pas le souvenir d'un malade. Vraiment. Et depuis vingtaine d'années. À partir du moment où on explique bien, où on montre les courbes de survie sans cancer, qui sont proches de 100%, hein, que ben voilà, c'est une forme, disons, de vieillissement normal de la prostate. La prostate en vieillissant développe des petits foyers de cancer qui ne tueront jamais. Il y a eu une publication où il y avait une métastase d'un glycone 6, elle a été retirée. C'est en New England, ça a été retiré à réanalyse. En fait, ce n'était pas un 6, c'était un 8. Vous voyez, donc, je crois que c'est de l'information.
L'importance de la sensibilisation.
L'information. À partir du moment où les gens sont bien informés, ils n'ont pas peur. Voilà.
C'est très important. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, professeur François Desgrandchamps, hein, d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et pour plus d'infos encore, hein, on peut se reporter à votre livre « La prostate, on en parle », publié aux éditions Hachette Bien-être.
Priorité santé sur RFI.
Hashtag prenez le relais, c'est le nom de la campagne de sensibilisation, mobilisation à l'initiative de l'établissement français du sang, appel au don de sang jusqu'au 11 juillet. Et puis cette collecte, elle est d'autant plus urgente, importante, essentielle que les réserves de sang sont en dessous du seuil d'alerte en France après la crise sanitaire, le confinement, alors qu'on est à 2 semaines de la période des vacances scolaires. Pour en parler avec nous, François Charpentier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes porte-parole de l'établissement français du sang. Prenez le relais, un mois pour tout donner. On va commencer par du concret, du très concret. Où s'adresser, où se rendre précisément pour cette campagne quand on veut donner son sang dans ce contexte particulier qu'on vit encore dans certaines régions de France?
Alors, on a comme point de collecte fixe environ 120 sites, hein, et comme point de collecte mobile environ entre 100 et 100 collectes mobiles. Tous les jours. Et l'adresse ou l'endroit où vous pouvez donner, je vous invite à aller sur notre site Don du Sang, le site officiel de l'établissement français du sang, ou bien télécharger et utiliser l'appli Don du Sang qui vous dira très facilement où vous pouvez aller donner au plus proche de chez vous.
On mettra l'adresse hein, sur le site de l'émission.
Merci.
Forcément, les personnes se posent la question. On a eu la crise. Dans certains endroits, il y a encore des sensibilités. La nécessité de porter le masque obligatoire à l'intérieur des locaux. Comment on fait justement pour donner son sang et être complètement rassuré sur les risques éventuels de transmission en ce moment?
Alors, la sécurité des donneurs est évidemment pour nous quelque chose d'absolument essentiel. Très schématiquement, pendant le confinement, paradoxalement, on a vécu une situation à peu près correcte parce que même si la collecte avait baissé, on pouvait sortir pour aller donner son sang. C'était autorisé. La consommation baissait. Avec le déconfinement, ce qui se passe, c'est que la consommation a retrouvé un niveau normal, relativement important. Par contre, notre collecte est freinée par deux mécanismes. Le premier, c'est qu'on a perdu des pans entiers de territoire où on pouvait aller collecter. Je veux parler notamment des collectes qu'on faisait dans les milieux enseignants et des collectes qu'on faisait dans les entreprises, notamment avec le télétravail et pour des tas de raisons, on ne peut plus le faire. Et l'autre raison, vous l'avez cité, ce sont justement les mesures barrières qu'on a renforcées sur nos collectes, hein, à commencer par le port du masque obligatoire. Il est fourni, si vous n'en avez pas, bien sûr, qui ralentit le rythme. Et on a donc une collecte qui, depuis juste après le confinement, qui ne répondait plus. Enfin, on collectait et on produisait moins de produits qu'on en consommait. Donc, on perdait plusieurs milliers de produits par semaine. La situation, depuis la semaine dernière, s'est un peu améliorée, mais il faut qu'on continue à faire des réserves, effectivement, pour l'été, vous l'avez dit.
Et bien sûr, il faut rappeler que ces réserves de sang, elles sont essentielles pour la prise en charge de nombreux traumatismes. Avec l'été, il y a l'augmentation notamment des accidents de voiture et puis des traumatismes en général. Mais bien sûr, tous les malades, tous les patients au long cours qui ont besoin du sang, du plasma, des plaquettes.
Bien sûr, il y a bien sûr à côté de la traumatologie, on imagine bien, hein, quasiment la moitié ou plus de 40% de besoins sont des besoins en produits sanguins sont générés par les maladies du sang, les maladies hématologiques et les cancers. Voilà, dans le cadre des traitements de ces maladies-là, ou bien des maladies du sang génétique comme la drépanocytose, où les gens sont obligés d'être transfusés plusieurs fois quasiment tous les mois.
Donc tout ça, c'est important, nos auditeurs le savent bien.
Oui, et ces produits sont irremplaçables aujourd'hui, très clairement.
Justement, conseil très pratique hein, pour ceux qui auraient envie de donner leur sang, à quel intervalle, on va dire tous les combien, pour parler trivialement, est-ce qu'on peut donner son sang?
Alors, il y a deux notions. Une, on peut donner on peut donner 4 fois son sang si on est une femme dans l'année, 6 fois si on est un homme. Par contre, il faut respecter un intervalle minimum de 8 semaines entre deux dons. Voilà, il y a cet intervalle minimum entre deux dons et un nombre de dons maximum par an.
Merci beaucoup. Hein. Merci François Charpentier. J'espère que l'appel aura bien été entendu par tous ceux qui nous écoutent sur le territoire français. Hashtag prenez le relais, donnez son sang pour sauver des vies. C'est essentiel. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussamak et Ophélie Lassène, Didier Bleu et Didier Chérouse aujourd'hui. Et demain, nous allons parler de l'eczéma, des problèmes de peau. On répondra à vos questions sur la dermatologie. Ce sera dès 9h10, temps universel. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounou Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounou Assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.